Chapitre 5. Il est dit dans le grand livre des lieux communs que les voyages forment la jeunesse. Ils m'ont permis d'accéder à l'âge adulte d'un coup, d'accéder à davantage de sérénité. Ce petit supplément qui relativise sauve une existence pas trop propre, pas trop droite, pas de quoi se vanter quand on sait d'où viennent les fuites. Un avenir enfin pourrait s'ouvrir sous mes pas. La mort de cette victime fut liée par je ne sais quel concours à ma nécessité vitale. Elle fut le point de départ. Elle fut ma résurrection d'entre les trous du cul. Premier surpris par cette soudaine transformation, j'eus du mal à m'en remettre. En effet, comment peut-on, après s'être réjoui jusqu'à plus soif du malheur des autres, tout en le provoquant, tout en s'en réjouissant, ne plus s'en satisfaire et, comble de la bizarrerie, jouir du bonheur de son prochain en éprouvant bien plus de plaisir, peut-être même en tutoyant le dit bonheur. Le prêtre de service aurait pu sans doute m'expliquer que, touché par la grâce divine, je n'avais guère le choix. Mon scepticisme marqué quant au divin aurait découragé ces tentatives évangéliques. Les princes costumés de l'amphibologie m'ont toujours agacé. Moi, je constate que sur Terre, les preuves accumulées par les donneurs de leçons ne sont pas tangibles. Me vient une pensée pour un camarade d'école qui, préadolescent, s'est fait enculer par un homme pieux. Un des rares qui s'en soit remis sans trop de dommages, excepté pour le cul de ses enfants. Comme quoi, parfois, pour certains, la mort n'est pas forcément la solution. Le monde est ainsi mal fait. Alors me voilà devenu chic et choc à la fin de ce chapitre. Tant mieux pour vous. Vos hauts cœurs outragés, l'éveil de votre côté obscur et de vos vices non avoués pas encore révélés, tant mieux pour moi devenu apaisé, calme et tranquille. Je ne puis m'empêcher de penser à tous vos frissons perdus, à ces obscénités qui grattent avec délice, aux outrages que votre imagination a construits, mais que le code pénal, comme celui du bien-vivre, sans faire de bulles, vous impose. Je ne puis m'empêcher de penser au temps qu'il m'a fallu pour accepter mon miroir. Désespérant d'avoir été si con la veille, de passer à côté sans rien voir, d'être un autre impossible à aimer, d'accumuler des souvenirs de rien qui s'effilochent et se perdent en laissant un goût amer, de glisser chaque jour davantage dans la fosse à merde où se baigne le monde sans rougir. Le miracle s'est produit là-bas, au Brésil. Avant le continent sud-américain, il s'est passé des choses toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Nous pensions être mariés pour les bonnes raisons. Elle disait même que j'étais l'homme qu'elle devait épouser. Assez proche pour accepter la fusion de nos biens et suffisamment éloigné pour choisir une forme d'indépendance à nos vies. Je ne l'aimais pas, elle ne m'aimait pas. Nous pensions mordicus que c'était un gage de durabilité. Nous nous apprécions plutôt. Assez pour élever notre cynisme à la hauteur d'une passion. Dès la fac, j'avais cru comprendre que les histoires d'amour sont des handicaps pour toute personne ambitieuse, que seules les alliances entre gens de bonne fortune et avec les mêmes intérêts pouvaient justifier une cohabitation longue. Au campus, les quelques filles que je désirais ne m'envisageaient ni comme partenaire et amant, ni comme compagnon et ami. Mes attributs de coq ne correspondaient pas aux normes de l'époque. En termes explicites, plus que le muscle saillant plaisait l'androgyne. Sans oublier mon manque total de prédisposition pour la danse et mon avarice pour les compliments. Rien qui puisse séduire les canons de l'époque. Heureusement, j'avais beaucoup plus de succès avec les moins avantagés. Ma libido y trouvait son compte. Pour autant, je ne faisais pas feu de tout bois. Je choisissais mes plaisirs avec un soin particulier, en me basant sur un seul critère, dicté à n'en pas douter par un désir profond que j'étais bien incapable de maîtriser. Bébé, j'avais refusé le sein de ma mère et, fort de cette explication, ce fut tout naturellement que je devins, souci de rattrapage, un adepte acharné des nichons. Pas n'importe lesquels, les gros, voire les très gros. Pour moi, tout se décrétait d'un regard, entre les épaules et le nombril. Le reste n'était pas important. En général, dès la première éjaculation, je regrettais avec, je m'en excuse à présent, un certain dégoût. Mais dès le lendemain, je repartais en quête d'une autre paire de roploplo. La forme n'avait pas d'importance. En poire, en pomme, gants de toilette, tous me convenaient sous réserve qu'ils soient gros et bien dodus. Dès la deuxième année, les poitrines conséquentes vinrent à manquer. Je dus prospecter en dehors du milieu estudiantin. Mes investigations me poussèrent à côtoyer des lieux infréquentables pour un fils de bonne famille. Les fortes poitrines étaient assez demandées. la plupart du temps discrètement, car les hommes ont souvent besoin du signe de tête approbateur de la norme. Ce vieux rêve de protection nourricière, dicté par une bite aussi gourmande qu'obscène, gratte à la porte des fantasmes réalisables. Tue Dieu, pourquoi s'en priver? Au début, tout va bien, c'est plutôt confort. Au milieu, ça va encore assez bien jusqu'à l'orgasme. Mais, à la fin, ce n'est qu'un au revoir et à bientôt qui ne promet rien. Nous sommes bien les seuls mammifères incapables d'assumer leurs désirs, trop occupés à chanter nos immenses capacités intellectuelles. Je dois reconnaître, cependant, qu'après, c'était souvent pénible. Entre la partenaire complexée par ses énormes attributs, la nunuche de service qui construit un film tout de rose vêtu alors qu'il ne s'agit que d'un plan cul, la pouffe vulgaire à limite obscène qui te fait douter du bien fondé de la démocratie, la moche à la gueule de travers, la pro qui attend son dû, hello, happy taxpayer, et tout ce que la mamelle abondante compte de support, j'avais vraiment de quoi maudire mes penchants scélérats, ranger mes couilles soigneusement au fond de ma culotte, puis jurer, mais un peu tard, que l'on ne m'y reprendrait plus. Là, 24 heures après, au-dessus des parties, l'étendard se dressait avec la même demande, fier et sans envisager la moindre réserve. Infâme instrument à qui je dois tant et tant de déconvenues. Mes expériences mammaires m'avaient au moins permis de fréquenter le milieu, là où tout s'achète, comme partout mais sans la moindre hypocrisie. La pommade doit être un remède pour se sentir civilisé, m'étais-je dit, bien décidé à créer un onguent qui me soit propre. J'avais finalement réussi à canaliser mes envies avant la fin de mes études. Les tétons glissaient progressivement hors de mes champs d'action. Heureusement d'ailleurs, je m'étais mis en tête de chasser du lourd. Déjà l'avenir me turlupinait. Je ne voyais pas le bâtir sans subside. Seul oui, mais pas nu. Il me fallait trouver une fille de bonne et riche famille, de préférence unique, avec ou sans charme du moment qu'elle présente bien en société. Je la voulais pas trop con, suffisamment lettrée pour me déguiser sous de beaux jours, curieuse sans être fouineuse, solidaire aux yeux du monde mais indépendante, capable de défendre quasiment au péril de sa vie nos intérêts communs et, pour conclure, richement dotée. Comme un bloc face au reste du monde. Pour le reste, je veux dire l'aller-retour hygiénique qui se pratique chez certains couples qui veulent des enfants ou qui n'ont pas d'argent, mon carnet d'adresses croulait de filles de mauvaise vie, prêtes à l'emploi pour combler mes élans en échange d'eux. Je n'avais, outre mon ambition démesurée, à offrir qu'une particule n'impressionnant presque plus personne. Sauf un nouveau riche qui se serait fait lui-même, souhaitant une reconnaissance dans le monde qu'il croyait grand, marierait sa fille à une espèce de comte. Un mouton à cinq pattes, en fait. D'autant plus difficile à trouver que ce genre d'hommes, au fait des affaires, ne sont pas faciles à berner. Cependant, leur seul point vraiment faible pouvait être une engeance adulée, chérie, adorée sur laquelle tout reposerait. Difficile d'arracher à un père exclusif le trésor de sa vie. Le défi me plaisait. Restait plus qu'à chercher. Très en confiance, nourri de mes expériences, de mes trahisons, tricheries, mensonges, je savais qu'il me faudrait une femme porte-drapeau d'un bon niveau à qui je pourrais rendre l'appareil. Une femme qui serait mon égale. Nos occupations professionnelles et amoureuses pourraient être divergentes, mais ne pourraient nuire à notre union sacrée. Un pacte mafieux en quelque sorte. Une moralité inexistante bénie devant Dieu, la famille, les hommes et les apparences. Certaines bonnes âmes m'invitaient à la bienséance car ils trouvaient à redire sans que je sollicite leur avis. Je n'en avais cure. Quand on aime personne, même pas soi-même, il est impossible de comprendre des notions comme pureté, sincérité, honnêteté, alors que seule l'avidité et le mensonge dirigent notre pensée. J'étais insensible aux arguments mis en avant par les apôtres de l'empathie. Je trouvais leurs remarques risibles, je ne pouvais pas imaginer qu'un rapport humain puisse être désintéressé. Cela ne s'était pas du tout passé comme je l'avais prévu. À la fin de mes études, je m'étais trouvé seul, sans candidate probante. Par la suite, rien ne se déroula comme sur le plan. Je fus contraint de quitter mes projets le temps d'essayer autre chose. Quelques années s'écoulèrent. Elles se passèrent bien différemment. Je n'avais pas pu mettre en place le projet initial de fin de scolarité. J'avais fini par choisir une orientation différente. À mon grand désarroi, elle cessa brutalement. Mal préparé à cet arrêt violent, je m'étais senti perdu de longs mois. Ce fut une rencontre imprévue, comme souvent, qui décida, un peu contre mon gré, du nouvel ordre de ma vie. Conjonction favorable, hasard à saisir, intime conviction, semblant d'opportunité, je ne saurais le dire. Sur l'instant, comme je sortais d'une expérience trop lourde pour mes épaules, je n'en avais rien à foutre, peu m'importait mon sort ou celui des gens. Je devais faire autre chose et au lieu de chercher une orientation, je me contenterais de celle du passé, avortée en l'absence de candidate. Manquait plus que l'oiseau rare. Sans doute m'attendait-elle aussi, tandis que, de nouveau à l'écoute, je la cherchais. J'avais mis à profit ces quelques années pour créer une petite affaire. L'entreprise progressait à pas compter, comme c'est la règle quand on manque de fonds propres. Sur ce dernier terme, il y a beaucoup à dire, puisqu'en réalité les apports n'ont pas toujours des origines bien nettes. L'argent sale n'étant pas l'apanage des gangsters. Cela dit, presser le pas, me fixer d'autres objectifs m'était devenu indispensable pour ne pas dérailler. Ma rencontre avec Odile, perle rare, maillon essentiel, boosterait mes affaires. Mes dents avaient de rechef besoin de caresser l'encaustique des parquets. Mais avant d'allonger le pas pour oublier, le rite initiatique s'imposait. À peine étions-nous sortis du véhicule qu'il m'ordonna d'un geste brusque de le suivre. « Seul, » précisa-t-il. Sa fille protestant en vain. Je m'étais assis face à lui dans son bureau austère. Quelques dossiers sur le coin de la table, une tablette éteinte, un stylo multicolore, un double décimètre, une gomme et un crayon à mine étaient les seuls ornements de son lieu de travail. Le gaillard, généreux quant aux proportions, pouvait impressionner, et il le savait. Parce que je savais qu'il le savait, il ne m'impressionna pas. Carré de partout, avec une tronche décidée mais peu avenante, soulignée par un menton un poil prognate, des moustaches géantes qui cachaient fort mal sa lippe généreuse, un tarin façon patate à frites, de larges épaules un pet tombantes, une taille peu marquée et surtout de grosses paluches en forme de pattes d'ours assorties de doigts géants taillés comme des saucisses. Physique en soi percutant, pourtant l'essentiel était dans son regard fixe, bleu acier, qui avait dû crucifier vivant pas mal de contradicteurs. Mais dans ma famille, je n'avais appris que le mépris. J'ignorais tout de la soumission. Cela ne l'empêcha pas de m'observer trop longtemps pour me jauger, en attendant sans doute un malaise qui ne vint pas. Je devais bien sûr faire bonne figure, mais hors de question d'écraser, encore moins de me soumettre à son autorité. Indispensable pour le stratège que j'avais choisi de devenir, de jouer dans la même cour. Je mis à profit ce moment scrutateur pour me déguiser en jeune gars décidé, très mature, qui ne s'en laisserait pas compter, que le loup-garou himself n'effrayait pas. Cela plut à l'homme. Les forts aiment la résistance. Elle leur permet d'imaginer de puissants stratagèmes aptes à la mettre bas, à l'écraser et ainsi se renforcer encore et davantage. C'est la faiblesse du fort, il ne peut s'arrêter. Il m'avait posé la question aussi idiote que bateau. L'aimes-tu au moins ? Je lui avais répondu que l'important ne gisait pas là, que j'appréciais Odile pour ses qualités intrinsèques, seul gage d'harmonie et de longévité pour un couple. L'amour était un plus qui ne se suffisait pas à lui-même. Après, il m'avait titillé sur mon âpreté éventuelle à profiter de ses écus en précisant au passage que les contrats de mariage n'étaient pas faits pour les chiens. Je lui avais dit, alors qu'il m'insultait inutilement. Ce qui se passait entre Odile et moi était plus grand qu'un compte en banque. Face à son incrédulité, à laquelle j'adhérais, je lui citai quelques exemples piochés dans mes lectures, en vain. Ce fut l'histoire d'un couple qui s'aimait d'amour tendre en sachant s'y prendre depuis des décennies, à savoir père et mère, qui le toucha. Sous ses dehors brutaux, le cœur du bougre battait encore. J'appris plus tard que les histoires improbables, parfumées à l'eau de rose, le relaxaient et parfois même, les jours de surmenage, l'émouvaient, le touchaient jusqu'aux larmes. Mes glorieux géniteurs, glorieux par le sang, vivaient plutôt modestement avec dignité, tête haute, épingle à cravate et bouton de manchette, dans le manoir de notre lignée. Une belle bâtisse en vérité, en bordure d'un étang et ceinte d'un bois nourricier. La famille possédait aussi un fermage qui rapportait peu depuis la fin du XVIIIe. Si bien que père, pour donner le change, devait se sacrifier pour arrondir. Fort de son aura, il usait de son charme comme de son allant culturel, en animant des réceptions plus ou moins mondaines contre du sonnant et trébuchant. De là à rouler en Rolls avec chauffeur, avait cru bon ajouter mon probable futur beau-père, de là à railler sans chercher plus loin tout ce qui ne vous ressemble pas, avais-je répondu. Et ainsi de suite pendant quelques heures. Un après-midi d'été gâché à jouer aux billes. Odile était partie se baigner à la plage des Cunus qu'elle appréciait particulièrement. L'apéritif sonna la fin des hostilités. Sans savoir qui avait gagné le concours des quéquettes, il conclut « On verra bien, je te fais confiance, et moi, vous avez raison, et lui, je te crois à la hauteur. » Comme quoi, un homme d'affaires important n'a pas peur des lieux communs. D'ailleurs, qu'entendait-il par « je te crois à la hauteur » ? À la hauteur pourquoi ? Pour rendre heureuse sa fille qui n'attendait de moi qu'un rôle de gestionnaire, qui savait parfaitement qu'à part le fric et le carnet d'adresse de son père. Elle était dure avec elle, Odile. Elle se tenait droite, avait pour elle une forme d'élégance de porte-manteau, très prisée, un vernis de lettré toujours efficace au pays des rustos, un esprit d'à-propos qui me serait très utile, sans oublier un humour à toute épreuve. Bref, au contraire de son père, coincé dans ses costumes, elle avait de l'élégance, une allure. Bon, je le concède, sa gueule d'empeigne laissait à désirer, son sens moral augurait des écarts et autres inconstances difficiles à accepter pour un mari féru de balcon et de mandoline. D'une poignée de main virile, la brute m'écrasa la dextre, l'accord fut conclu. Comme, à l'entendre, il n'avait qu'une fille, le faste s'imposait. Il fut convenu qu'il prendrait en charge l'événement. Il pria fort courtoisement père et mère de se charger des invitations pour gratiner l'ensemble avec de la particule. Pour le reste, il servirait d'intendant auprès des fournisseurs. Père et mère n'étaient jamais radins avec l'argent des autres. Ils acceptèrent la proposition équilibrée et ce cher Étienne, nouveau membre de la famille élargie, put faire comme il l'entendait. La cérémonie fut une parade dégoulinante de luxe à faire douter du bien fondé des traditions. Les potentats s'exhibèrent, chacun avec leurs armes. Un zeste de palme ou de médaille, un assortiment de solitaires et leurs doigts ravinés par les ans, une pléiade de gens d'importance qui passent à la télé pour exister encore un peu. Mais, un peu ivres, on finit par accepter les autres avec tendresse. C'est ainsi qu'avec ma bague au doigt, je pus bâtir ma pyramide avec des lois appropriées au bon vouloir. Ce cher Étienne me cautionna, tout en s'arrogeant une part conséquente du gâteau, mais son ombre, comme ses conseils, m'était assez utile pour que je me tienne quoi. Tandis qu'Odile prêtait son cul de ci de là, je fusionnais dans les affaires. Un peu plus de 9 mois passèrent. Une gestation pachydermique en vérité. J'en baris encore. Ce cher Étienne mit fin à la première étape. Ce furieux, devenu fou, sortit de la route à une vitesse stratosphérique. Il testait sa toute nouvelle berline allemande. La légendaire solidité teutonne ne suffit pas à préserver la vie de beau papa, ni celle de son épouse effacée en toutes circonstances, si je puis dire. Avec Odile, nous étions au comble du bonheur, enfin seuls et sans entrave. Tandis que je profitais du fait divers pour vendre et acheter foultitude d'actions, mon épouse s'offrit une double pénétration dans la cabane du jardinier. Ma vie s'ouvrait plus clémente comme lavée de toutes ces saloperies qu'elle m'avait infligées. Enfin vengée, je pouvais jouer ma partition. Juste mesure. Odile, qui ne souhaitait que les galipettes libertines pour faire face à son ennui, me signa toutes les procurations nécessaires sans même y jeter un œil. La fortune génère la fortune, sa croissance géométrique n'appelle qu'un peu de vigilance, et en dehors de quelques petits soucis stratégiques, rien de bien compliqué. Le moment propice à de nouvelles activités était venu. Odile, invoquant l'horloge biologique, pondit un enfant qui, hasard des hasards, me ressemblait. Entre deux coups, elle trouva de l'intérêt à l'éducation de son engeance. Pour une raison qui m'apparut obscure, elle s'arrangea pour me soustraire à l'affection de l'enfant qui finit par me rejeter. La lutte était inégale. Je passais la plupart de mon temps en représentation. Mon rôle de père se limitait à 2-3 phrases échangées avec ma fille. Je les voulais gentilles, mais elles sonnaient faux. Et puis j'étais brusque, je parlais fort, de façon autoritaire. De quoi faire peur aux petits êtres, tout en leur inspirant crainte et méfiance. Odile était de son côté très convaincante. Sa méthode éducative fut appliquée plus tard. Mon unique et inique enfant, mère à son tour, façonna sa fille comme elle fut façonnée. Se méfier de l'homme, ne lui donner aucun crédit, s'en servir et le jeter sans retour possible une fois hors d'usage. Moi, je pensais que, forcément, la nymphomane qui vivait de plaisir en plaisir en voulait au sexe opposé. Elle avait bien essayé les rapports lesbiens, mais sans grand succès. Pas facile de devoir sa vie de patachon aux autres, mais les réduire en simple jeu de bites l'arrangeait. Les lignes qui vont suivre ont été écrites sous la contrainte. Je les déconseille aux gens bien. Mon premier voyage dans ce pays sans nom m'ouvrit les yeux. Droit devant moi, un devenir, où le côté le plus obscur de ma nature pourrait donner libre cours, s'offrait. Impossible de nommer cet état sans, d'une certaine manière, le diffamer. Pour un gars aux traits européoïdes, il était très ardu de se faire une idée sur la physionomie des locaux. Difficile de percer leurs secrets, d'appréhender avec justesse leurs expressions, leurs sentiments, leurs pensées et même d'évaluer leur âge. Mais, il faut bien le dire, ces visages excessifs, impassibles à l'extrême, obséquieux à douter de leur sincérité, rieurs bien au-delà du naturel, serviables jusqu'à l'effacement, m'intriguaient tout autant qu'ils me séduisaient, me subjuguaient, tant ils reflétaient des notes inconnues. J'avais l'ardent désir de découvrir leur partition pour en jouer tout mon sou. Blotti tout au fond de ma conscience peu regardante, je savais que ce peuple me permettrait la découverte de plaisir. Je les pensais subtils alors qu'ils n'étaient qu'indignes. Cette belle nature que voilà et ses penchants scélérats revendiqués comme une juste rétribution des privilèges estimés dus me répugnent à présent. Officiellement, pour calmer les ardeurs fiscalistes de zélés inspecteurs, je pouvais justifier tous mes déplacements en créant des modules d'import-export. J'éviterai de vous parler des produits importés, ils vous donneraient de précieuses indications pour situer ce premier pays d'où est partie l'idée. Premier d'une longue liste, car fort de mon succès, je puis envahir une partie du monde en voie de développement. Mon projet fit naître d'autres petits et généra des rendements à faire pâlir mes pairs. Ce développement imprévu fit de ma fortune une colossale fortune, née sans douleur d'une réflexion toute simple. Je me demandais souvent quelles étaient les motivations réelles d'un homme de pouvoir, qu'est-ce qui le poussait à avancer sans jamais bien regarder derrière. Me concernant, j'avais une idée. Elle s'avéra être la bonne. Odile n'était pas la réponse, nous ne partagions pas grand-chose. Certes, nos joutes oratoires fleuries étaient amusantes, nos dispositions à manipuler les plus petits que soi étaient proches, mais pour le quotidien, temps mort. Nous n'avions même pas une sexualité identique, si bien que, pour éviter des contretemps pénibles, nous décidâmes de ne plus s'occuper des fesses de l'autre, de vivre comme bon nous semblait, pourvu que notre tronc commun n'en souffre point. Pour en revenir aux hommes qui détiennent le pouvoir, une évidence sautait aux yeux. Ils ne se prenaient jamais pour de la merde, alors que, nous allons le voir dans quelques lignes, leur comportement était bien souvent merdique. Ce qui comptait pour eux dépassait l'entendement des braves, des honnêtes hommes, des bons pères, des aimants, de ceux qui cherchaient le meilleur de l'humanité pour les leurs. Le pouvoir était un caviar se dégustant sans fin. Il permettait à l'homme de s'exonérer de tous les codes moraux, de toutes les bienséances qui régissaient la vie du commun. Il donnait à celui qui le détenait un sentiment de supériorité apte à le guider dans des choix sordides sans rougir. Un sésame permettant à cet homme à part de décider du sort des autres selon son bon vouloir, selon ses règles, légales ou non. Il n'existait à mes yeux rien de plus jubilatoire que le pouvoir. La puissance qu'il pouvait représenter réifiait l'homme et parfois le déifiait. Une construction mentale qui faisait de vous une statue, un mythe, mais, presque toujours, une abomination. Un simple regard sur ceux qui tiraient les ficelles aurait pourtant suffi pour comprendre. Car il les avait fait de la compassion une espèce de condescendance, de l'amour une succession d'orgasmes fantasmagoriques et de leurs actes des calculs. Ils asseyaient leur autorité comme on siège sur une cuvette de latrine, sans égard pour ceux qui reçoivent. Vous leur demandiez le moindre service? En un instant, vous voilà devenu leur esclave. Je ne vais pas les nommer. Je n'ai pas trop envie d'avoir dans le dos le gratin du showbiz, des ministères, des officiers supérieurs, des capitaines d'industrie. Chacun choisira son pourvoyeur des coups fourrés. Tous ces gens dont j'étais un des membres pensaient que le meilleur devait leur être destiné et avaient forcément besoin de facilité pour que chaque jour fût exceptionnel. Certes, la plupart auraient dû s'offrir un psychiatre pour soigner leurs blessures, mais l'ignorance est mère de tous les vices. Le vice fut mon fil conducteur. L'esprit du cul sans entrave voyait le jour. C'est-à-dire, vous le saurez bien assez tôt. Je ne connaissais pas grand-chose à l'hôtellerie. Je savais cependant, en tant que client, ce qui lui manquait. Mes nombreux déplacements à l'étranger étaient devenus au fil du temps de plus en plus pénibles. Il ne faut surtout pas croire que les hommes d'affaires s'amusent et profitent des voyages obligés pour faire du tourisme. Bien trop stressés par ce qui les amène, leurs pensées paraissent à l'idée de visiter un musée ou un site historique. souvent la gaudriole, parfois la salle pour se relaxer, mais rarement la culture. Dans les établissements, y compris ceux classés haut de gamme, le service conciergerie laissait à désirer. Presque à chaque demande, je devais quitter ma chambre, graisser la patte de toute la cousinade pour me distraire un tant soit peu. Je fis ma petite enquête autour de drinks successifs auprès de mes congénères qui passaient le plus clair de leur temps par Mons et par Vaux. Il s'agissait d'hommes d'âge mûr, presque blêtes, souvent tavelés de la tête aux pieds. Leur vie habituelle manquait d'exotisme. J'appris sans grand étonnement que l'exotisme consistait à se dégourdir le poireau après chaque négociation, difficile ou pas, sans que leurs clients en soient avisés. En général, ils se foutaient dans les grandes largeurs des us et des coutumes du pays, comme de son socle culturel. De la détente soit, mais sans quitter leur chambre. Dans un premier temps, j'avais pensé investir dans l'hébergement hôtelier classique en m'adaptant à la demande. Dans un deuxième, j'avais remarqué que, bien souvent, les clients avaient à redire sur le côté impersonnel des chaînes. J'eus donc l'idée d'un hébergement plus cosy. En vérité, plusieurs idées se télescopèrent dans mon cerveau, torturées par un zeste de dégénérescence. C'était plus facile, étant moi-même utilisateur, de cerner au plus près les besoins de ma nouvelle clientèle, collé au premier réflexe, aurait dit un de mes profs qui, pédagogie exquise, n'avait jamais foutu les pieds sur le terrain. S'agissait d'offrir le plus indiscutable, hormis la discrétion, la sécurité et le confort irréprochable fût-il excessivement onéreux, c'est-à-dire des services dans l'enceinte. Les services devant être limite-limite pour que chacun en ait pour sa dépense. Je n'écris pas pour son argent, le possessif n'étant, à mon sens, pas du tout approprié à ce niveau. J'évaluais les tarifs à un salaire minimum de chez nous par tranche de 24 heures. Raisonnable, indolore pourvu que le désir d'un reviens-y animât l'hébergé. Quand on aime, le prix s'oublie. Je tenais beaucoup à ce que l'argent ne grippe pas le beau fonctionnement envisagé. Un échange de banque à banque neutre avant le départ, puis on n'en parle plus. La prise en charge est totale, exclusive, dès les premiers doigts de pied posés sur le pays de passage. Tout est compris. All inclusive, cela ne marche pas que pour les pauvres. Les riches aussi comptent et gèrent leur budget. Et le vôtre par la même occasion. Je me portais acquéreur de petits immeubles et de grandes maisons dans la capitale et ses environs. Puis je trouvais un homme de confiance parmi les autochtones. J'entends par homme de confiance un homme à qui j'avais rendu service, dont je connaissais les points faibles, casserole au train, et que je pourrais tenir par les couilles. Un voyou repenti sur qui j'en savais trop par exemple. Une fois l'homme choisi, je commençais le recrutement. Un architecte pour superviser les travaux, un chef cuisinier de renom pour superviser les cuisines, une gouvernante de palace pour superviser les femmes de chambre, un commissaire de police qui voulait arrondir ses fins de mois et préparer sa retraite pour superviser la sécurité, un logisticien pour superviser les transports, un avocat pour faire bonne figure, un comptable pas trop véreux et une mère maquerelle ferme mais juste pour superviser les filles de joie tout en les formant aux spécialités demandées. Chaque logement mis à disposition offrait, à tout principal, du personnel corvéable à merci, inclus le droit de cuissage si le client sentait un gratouillis haleine. Il en allait de la réputation des établissements qui n'avaient que le bouche à oreille, et partout ailleurs, pour seule publicité. Ainsi, avec cette méthode, l'homme d'affaires devenait un invité privilégié. Ses déplacements étaient pris en charge. Un cuisinier s'adaptait à ses goûts et la plupart de ses déviances trouvaient une issue directement dans sa chambrette sans qu'il eût à fréquenter des endroits mal famés pouvant ternir sa réputation. Une fille était à sa disposition parmi les meubles et la maison, par principe, ne facturait pas de supplément pour les extras. Cependant, certaines demandes borderline pouvaient être sous-traitées. Pour ce dernier cas, la maison ne voyait rien, n'entendait rien et ne disait rien. Après tout, l'homme descend du singe. La mise en place fut très coûteuse, bien obligée, je dus refuser des réajustements salariaux dans mes autres entreprises. J'avais exigé du luxe pour un accueil voluptueux parmi des œuvres d'art et des meubles signés. Justement visé, en quelques mois, les réservations affluèrent. Le produit plut tellement que d'autres investissements furent programmés, encore et encore. Les clients devinrent avides du genre. Une mode vit le jour. Malgré l'aspect immoral, parfois illégal, vu l'âge limite de certains personnels, il y eut peu d'indiscrétion. Dans le monde du pouvoir, on ne cause pas pour que chi. Un fouille-merde avait bien cherché à nuire à ce concept hôtelier révolutionnaire en vomissant un article outrancier dans son canard, mais le pauvre perdit la vie dans un véhicule de location aux freins déficients. L'autre commissaire attitré se chargea de l'enquête pour que la réputation de l'entreprise restât immaculée. Nous eûmes parfois des problèmes à résoudre. Les desiderata de quelques clients étant impossibles à satisfaire tant ils s'écartaient des normes admises. Nous ne pouvions accepter la violence extrême et la prostitution enfantine malgré une demande assez forte. La gestion étant difficile sans les foudres policières et mon reste d'humanité me l'interdisait. En bon père de famille, les demandeurs finissaient par comprendre que non, tout n'était pas possible. Nous apportions, pourtant, le plus grand soin à notre sélection. Nous avions coutume, en effet, de sillonner les campagnes, d'acheter les filles les plus dociles à des parents surdimensionnés en engeance. Cela garantissait qualité, serviabilité et tranquillité. Voilà comment, à travers la planète appauvrie en droiture, j'avais créé un lupanar géant pour riches possédants, dirigeants et autres chefs. Tout ce beau monde qui orchestrait les destinées des porteurs de chaînes avait un côté Mr. Hyde protubérant. J'aurais pu m'arrêter là. Il me vint une autre idée qui devait s'avérer encore plus rémunératrice. Je ne savais pas alors qu'elle allait me transformer. Puisqu'il était facile d'acheter l'honneur d'une fille pour un prix dérisoire, que ses parents non seulement ne s'y opposaient pas, mais participaient âprement à la négociation, je pouvais envisager de pousser le bouchon un peu plus loin. Évidemment, la cote était plus ou moins élevée suivant le niveau de vie de la contrée, mais sachez que, dans certains endroits reculés, pour le prix d'un macaroni, vous possédez une préadulte quelques mois, le temps d'en faire une épave. La gastronomie de luxe n'est pas responsable pour autant de ces situations marchandes. Pousser le bouchon plus loin voulait dire pour moi acheter plus jusqu'au sacrifice. Sacrifice d'organes, sacrifice. Des faits avérés me poussaient dans ce sens. Dans ce monde de déséquilibre, la survie des siens passe parfois par son propre sacrifice. Fort de ces constatations, un marché me semblait ouvert et demandait une forme de régulation. J'étais assez étendu de par la planète pour savoir ce qui manquait là et se trouvait ailleurs. Ainsi, je créais de rechef un tout compris pour satisfaire la demande en reins, poumons, foie, pancréas, avec comme objectif le cœur. Contrairement à mes illusions, pour quelques milliers de billets verts, des hommes et des femmes dans la force de l'âge étaient prêts à passer de vie à trépas dans le seul but de permettre une existence à leur famille. En revanche, je ne fus pas étonné que de vieux grabataires puissent acheter des miettes de vie pour quelques centaines de milliers de billets de la même monnaie. Un peu partout, je fis transformer mes lupanars en cliniques ultramodernes avec la discrétion d'usage. Les candidats à l'ablation furent assez nombreux et les candidats receveurs assez riches pour satisfaire mon avidité sans borne. Il y avait quand même un hic dans le système. Une couille dans le potage, un rot désagréable. Autant les bordels organisés m'amusaient, autant les greffes multiples et variées, parfois ratées, me laissaient un sentiment amer. J'avais imaginé qu'en me prenant pour Dieu, en ayant une partie des puissants à mes pieds, j'accéderais à une forme d'extase indescriptible, un nirvana spécial ordure. À tort. Bien au contraire, et à ma grande surprise, malgré les nombreux avantages acquis, je culpabilisais presque. Pas longtemps, certes, mais de plus en plus souvent. L'idée de lever l'orteil m'avait traversé l'esprit, jusqu'au jour où vint le dénouement inattendu. Deux jumelles à peine majeures que j'avais l'intention de consommer quelques nuits pour le paiement d'un rein destiné à leur jeune frère me firent changer d'optique. Les premières heures se passèrent plutôt bien. Elles semblaient assez complices, assez résignées pour supporter les outrages, ou devrais-je dire les salissures, que je leur imposais. Ensuite, ça se gâta. Quand elles apprirent, maladresse d'une collaboratrice manquant de discrétion, que leur frère s'était éteint pendant l'homogreffe. Bien que la mort n'ait aucun rapport avec la greffe, leur douleur n'en fut pas moindre et le responsable tout trouvé. Sincèrement navré, pour une fois c'était vrai, je les congédiais en bredouillant des excuses. Cela ne ressemblait en rien à mes habitudes de fonctionnement. Nous étions sur la terrasse ensoleillée au dernier étage d'un gratte-ciel, avec d'un côté vue sur l'Atlantique et de l'autre un aperçu des favelas où résidaient les jumelles. J'avais fait installer un immense jacuzzi, j'aimais m'y tremper au coucher du soleil, les pieds en éventail, relaxés du slip. Elles me regardèrent comme une quantité négligeable, se prirent la main, franchirent la balustrade. À cet instant, en une fraction de seconde, je pris la mesure de mes insuffisances. Ma vie bascula d'une morale à l'autre. Ce fut la fin d'un empire sans partage, la fin du chapitre qui, comme promis, vous livre un héros refait à neuf.
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me débarrasser de ce connard qui me sert de père. Au moins, mon mari me fout la paix. Ce curieux animal ne s'intéresse qu'au pouvoir, à tout ce qu'il sous-tend. Les possessions, les brimades pour ceux qui ne suivent pas les oukases du prince, les passe-droits, les soumissions et autres plaisirs de dominant. Voilà ce qui compte pour lui. Moi, je ne suis qu'un moyen pour y parvenir plus vite. Nous le savons bien, pas grand-chose ne nous attire l'un vers l'autre, excepté peut-être une forme d'humour, un brin cynique. Il s'exerce sans aucune empathie pour les moutons. Je ne l'aime pas, pas plus qu'il ne m'aime. Je le supporte le temps de représentation où le décorum demande des godiches pour faire comme si les affaires avaient une odeur acceptable. Étienne m'a déjà formée à ce genre de conneries. Je suis préparée et, je dois dire, assez performante. Ainsi, ma moitié s'occupe de l'intendance sans discuter mes dépenses somptuaires avec de folles largesses pour les bijoux et les toilettes qui clinquent, comme dirait Bite de Cheval, mon amant fidèle. Pourvoir à toutes ces foutaises matérielles donne à notre accord un bel équilibre, d'autant qu'il ne cherche pas à me nuire ni à coller son nez dans mes petites affaires. Ce n'est pas toujours facile de donner le change à ce rat-au-pied qui remue la merde, écrase ses chefaillons, conchit les concurrents quand il ne les pousse pas au suicide. Mais ça reste globalement positif. Et pour passer le temps, nous nous entendons plutôt bien pour dire du mal des autres. À part ça, il n'a jamais été foutu de me baiser correctement. De temps en temps, quand il n'a pas de cochonne près de son slip, il fait la vidange. Il me saute rapido en pensant à toute autre chose. C'est frustrant, pas du tout gagnant-gagnant, comme on dit dans les affaires. Heureusement, les ça-va-ça-vient sont de plus en plus rares depuis qu'il a trouvé en terre asiatique de quoi satisfaire ses fantasmes, comme ses démesures. Mon pauvre époux, comme tu le sais, je trouve mon dû un peu partout. Je te remercie pour le respect du pacte. Tant que je remplis mon rôle d'hôtesse de luxe, de dame de bonne compagnie auprès des cousus cossus de ce monde, tu as l'intelligence de laisser faire sans émettre le moindre avis. Le hasard a fait que j'ai pondu un enfant dont tu as rempli le berceau d'oseille, que tu as laissé péter dans la soie alors qu'il réclamait de l'attention, tout simplement de l'attention. Le petit être souhaitait tout autre chose. Il a fini par t'oublier. Tes efforts maladroits n'ont servi à rien. Le coup ne se rattrapera pas car je fais tout pour la soustraire à l'affection de son père. Je gagne, mon pauvre époux, elle n'adulera pas papa. Le vieux s'est craché avec sa grosse Mercedes, ou plutôt son AMG, parce qu'un véhicule préparé, ça change tout. En 1000 morceaux, l'épave. Le véhicule a bien tenu, mais le choc ultra-violent a disloqué le conducteur. Dommage que ce pourri ait entraîné ma pieuse mère, pour laquelle j'avais encore un peu d'estime. Qui va garder ma fille ? Des obsèques en grande pompe de clown, comme il se doit pour un homme qui compte. Tout le gratin des redevables est là. Pour la circonstance, je suis en tailleur. Il est sobre, mais de couleur vive, parce que je suis de très bonne humeur. Je ne cache pas ma joie. Excitée comme une prépubère qui passe l'après-midi à la fête à Neuneu en attendant que le grand Sam lui roule un patin au lieu de s'empiffrer de croustillons. Mon comportement jubilatoire, un poil puéril, n'échappe pas à Monseigneur. L'évêque, l'homme de foi de service et d'importance, prononce l'homélie qui fera date dans la presse locale, avant que d'embastiller Papounet entre quatre planches. Je connais bien cet homme qui avait table ouverte à la maison, qui s'est chargé de mon éducation religieuse. Paternel en diable, il me fait des remontrances quant à ma tenue trop décontractée, m'invite à davantage de bienveillance, de respect des us, des coutumes et de ce qui doit se faire en pareille circonstance. De quelle bienveillance parles-tu, l'évêque ? Tu te souviens au moins? Lorsque j'étais enfant, tu me prenais sur tes genoux en me faisant sautiller sur un truc dur, en l'occurrence ta queue contrariée par sa prison de tissu. Te souviens-tu? D'autant que ces derniers temps, tu te caches derrière ton petit doigt en distinguant à peine le curé du village qui encule les enfants, qu'il te faudra déplacer mais à qui tu pardonnes parce qu'il se repent. C'est ça la bienveillance? Cependant, joyeuse, je reste. Les réflexions de la bien-pensance, je m'en tape. En réalité, la plupart font mine de rien en sifflotant un air martial, beaucoup plus inquiets par les plans de licenciements éventuels du beau-fils qui rafle la mise ou des avantages qu'il risque de perdre que par ma tenue chatoyante. Mon comportement léger comme une plume au vent. Mon conjoint m'a prévenu. Maintenant, il n'y a plus de limite. Le Mijaurée s'est éteint. La flamme illumine le champ des impossibles. Mon pauvre époux, sais-tu seulement ce que tu souhaites? Tes gens bien intentionnés m'ont mis en garde. Tes folies te perdront, prétendent-ils. Malgré notre fortune et tes largesses, le gouffre un jour. Pourtant, tu aides les sans-abri qui bossent pour toi dans nos mines. J'ai fini par te détester. L'homme irascible, sans pitié que tu es devenu, est détestable. Ce qui est sûr, mon pauvre époux, c'est que les printemps s'arrêtent un jour, et ce sera facile de nous séparer.